thermes et son bâtiment. La colonie romaine d'Arelat a possédé plusieurs établissements thermaux, se trouvant tous à l'ouest du Cardo, la grande voie nord-sud. Les premiers bains publics apparaissent à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les thermes de Constantin sont construits au 4e siècle après Jésus-Christ, époque prospère et florissante pour la cité d'Arles. Édifice symbole du confort de la vie urbaine et de la civilisation romaine, les thermes permettent, dans de vastes espaces, la pratique d'exercices physiques et l'accès aux bains assurant l'hygiène corporelle. L'ensemble de la population y est accueillie, esclaves, citoyens, étrangers et magistrats. Les usagers peuvent y manger, boire, jouer, faire des affaires et du sport. Certains édifices possédaient même une bibliothèque et des jardins. Devinette, qu'est-ce que le caldarium ? Réponse. Dans la Rome antique, le caldarium ou calidarium, du latin calidus, chaud, était la partie des thermes où l'on pouvait prendre des bains chauds alimentés par un système d'hypocauste.
Les thermes et les jeux. Les loisirs dans les thermes étaient très nombreux car les empereurs avaient fait de ce lieu une véritable récréation. La gratuité des bains publics donnait accès à l'hygiène mais aussi aux loisirs. Le visiteur y trouvait le bain froid, le bain chaud, les piscines, les baignoires, des salons de repos ou de massage, des salles de gymnastique, des stades, des bibliothèques et parfois de véritables musées. Cependant, la natation demeurait l'une des activités préférées des garçons romains. La plupart des thermes romains étaient également équipés de piscines dans lesquelles on pouvait se baigner. La séparation des activités des hommes et des femmes était marquée par des horaires différents et quelques femmes semblaient savoir nager dans l'Antiquité. La lutte et la boxe étaient des sports populaires qui se pratiquaient généralement dans la palestre des thermes romains. Comme les gants de boxe n'existaient pas, les athlètes s'enveloppaient les mains dans des couches de tissu. Ces deux activités contribuaient à améliorer la condition physique générale et à développer la force et l'endurance. Elles étaient généralement appréciées par de nombreux Romains. Devinette. Quel sport les femmes pratiquaient également aux thermes ? Réponse. Elles appréciaient la course derrière le cerceau de métal, le trochu, et elles maniaient le bâtonnet fourchu appelé clé à merveille.
La vie quotidienne, les jeux privés et leurs fonctions. Les anciens appréciaient beaucoup les jeux de société tout en engageant les paris lors de ces parties. Ce sont des privati ludi, les jeux privés. De nombreux objets, lampes à huile, statuettes de divinités, vaisselle de table, bijoux, clés, jetons, dinettes, permettent de mieux comprendre le cadre et les différents aspects de la vie quotidienne des habitants de la cité d'Arles. Tels l'hygiène, mais également les jeux privés. Les pueris, c'est-à-dire les enfants, durant leurs jeux privés, jouaient souvent aux gladiateurs, aux soldats, aux magistrats. Leurs jouets étaient nombreux et variés. Hochets, balles, toupies, cerceaux, balançoires, poupées, animaux miniatures, osselets, dés, jeux avec des pions et des devinettes du type pair-impair ou combien de doigts. Les jeux sont étroitement associés aux âges de la vie et marquant les étapes de l'existence. Le don par le garçon ou la fille d'un jeu ou d'un jouet dans un sanctuaire marque le passage à l'âge adulte. Devinette. Comment se jouait les latrones coulis ? Réponse. C'est un jeu de petits soldats se jouant sur une tablette divisée en cases sur laquelle les joueurs déplaçaient les pièces dénommées soldats et combattants. Les esclaves et les jeux. Les jeux entre esclaves d'une même domesticité est autorisé. Le jeu de la balle donnée, datatim, ludere, est un exemple de jeu populaire parmi les esclaves. Plaute, dans le curculio, décrit les rues denses de Rome dans lesquelles on peine à avancer, freiné qu'on est par les esclaves qui encombrent le passage en s'y adonnant. Il se joue à main nue, avec la paume. Il est privilégié par les esclaves comme jeu de rue car presque totalement dépourvu de besoin d'aménagement de lieu. Le donneur, dator, est celui qui envoie la balle au renvoyeur, factor, son adversaire qui repousse la balle. Il s'agit d'un jeu de balle au rabais qui ne nécessite ni périmètre de jeu, ni contrainte matérielle. Jeu de rue par excellence, le jeu de la balle devrait être le plus répandu parmi les esclaves. Ce témoignage dans le plot sur le jeu de la balle donnée permet de mieux comprendre le quotidien des esclaves durant leur temps de jeu. Devinette. Que pariaient les esclaves entre eux lors des jeux ? ils ne pouvaient parier que leur repas.
Les fonctions des jeux dans la société antique. Joue et tu deviendras sérieux. La formule d'Aristote n'a pas pris une ride. L'être humain est caractérisé par un élément ludique qui détermine la culture humaine entière. Selon le fameux historien néerlandais Johan Huizinga, tout peut être expliqué. Sub spooky ludi. C'est-à-dire à partir de l'aspect ludique. Les différentes fonctions des jeux antiques sont nombreuses. Créer la cohésion d'une société, d'une famille dominée par le pater familias. Honorer les dieux en l'honneur de certaines divinités comme Bacchus ou Apollon pour le théâtre. Éloigner le mauvais sort, la peste a été l'origine de la création de jeux publics comme le théâtre. Honorer les morts, l'origine de la création de l'amphithéâtre serait liée à des cultes funéraires et religieux. Organiser le quotidien par des jours de fête, dans le calendrier romain. Favoriser le culte impérial, comme le prouve l'autel d'Apollon, changeant de figure en fonction des empereurs au pouvoir. Apprendre à être plus habile de ses mains et à développer des compétences utiles à la guerre en renforçant l'endurance, la ténacité et la performance, comme par exemple la natation. Devinette, quelle est l'étymologie du mot ludus ? Ludus signifie également école chez les Romains. Le jeu comme école de la vie ? À méditer.
Les toupies et les petits jouets. Les Romains connaissent ce jeu universel qu'est la toupie. Caton, homme d'État romain, partisan d'une éducation sévère pour les enfants afin d'en faire des citoyens romains valables, plaidait en faveur des toupies et s'opposait aux jeux d'argent et de hasard. Les toupies antiques sont désignées par des noms variés, bombyx en grec, turbo en latin, le toton, actionné au moyen d'une tige centrale, peut-être en bois, en terre cuite ou en verre. Ce jeu demande beaucoup d'adresse, de force et de coordination. Les mouvements aléatoires de l'objet sont synonymes de vivacité de la jeunesse qu'il faut apprendre à contrôler. Les toupies étaient généralement en bois ou en argile, et parfois en bronze. Devinette, pourquoi nous reste-t-il si peu de toupies ? Réponse, car elles étaient souvent fabriquées en bois ou en argile. Ce sont des matériaux qui se dégradent facilement dans le temps pour pouvoir être conservés de façon intacte.
Les poupées. Durant l'Antiquité, les poupées représentaient des femmes aux formes bien marquées et étaient le plus souvent articulées, comme celles d'aujourd'hui. Elles étaient en bois, en ivoire, en os ou en chiffon. Les poupées se répandirent dans toutes les régions méditerranéennes. Elles possédaient toutes sortes d'accessoires tels que bijoux, meubles et poteries. Les plus belles poupées de l'Antiquité datent de la période romaine. On retrouva quelques exemplaires magnifiques à Rome, mais aussi à Arlâtre. Dans la vitrine du musée d'Arles sont présentés les fragments d'une poupée articulée, avec des petits morceaux de carapace de tortue, correspondant au reste d'un autre jouet ou d'une lyre, petit vase. De ce jouet en os, il ne reste que 5 éléments. Le bras, l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, la jambe droite et la cuisse. Les petites filles les habillaient comme le font encore aujourd'hui, et avaient parfois des maisons de poupées et des jeux de ninettes. La veille de leur mariage, elles les offraient au dieu Lard de la maison paternelle, pour signifier qu'elles abandonnaient l'enfance et qu'elles entamaient une nouvelle vie, dans une autre famille. Ce type de jouet, véritable rite chez les Romains, initie la fillette aux transformations de son corps et aide l'enfant à imiter sa mère et à se préparer à sa vie future, de mère et d'épouse. Devinette. Que veut dire poupa en latin ? En latin, poupa désigne aussi bien la fillette que sa poupée. Cette ambiguïté traduit l'intimité de la fillette avec une poupée qui n'est pas un véritable jouet, mais bel et bien un double qui inspire à l'enfant le désir de grandir et de devenir une femme accomplie.
Le chariot miniaturé est lié aux animaux dans le quotidien. Les statuettes de la vitrine du musée d'art représentent souvent des personnages avec lesquels les enfants jouaient au quotidien. Les jeux les plus courants représentaient des personnages ou des animaux du quotidien avec lesquels les enfants jouaient au quotidien. Les animaux domestiques étaient très prisés des petits Romains. Outre les souris et les chèvres tirant leur char miniature, Ils aimaient les chiens, les chats et les singes. Beaucoup d'enfants sont représentés avec leurs animaux favoris, surtout des oiseaux. Devinette, que veut dire « arrête ton char » ? Réponse : arrête de dire n'importe quoi. Il s'agit d'un jeu de mots entre le char 1R, le véhicule, et le char 2R, ce qui désigne l'exagération.
Les tablettes pour écrire et compter. La tablette de cire dite tabula est formée d'une plaquette le plus souvent d'environ 10 à 40 cm de long sur quelques centimètres de largeur et quelques millimètres d'épaisseur. De la cire serra est coulée dans la partie en dépression, puis lissée. L'écriture se fait en gravant les caractères sur la cire à l'aide de l'extrémité pointue d'un instrument appelé stylum, aujourd'hui plus fréquemment appelé stylet. Les caractères écrits peuvent être effacés en lissant de la cire avec l'autre extrémité plate du stylet après l'avoir amolli. Ce support du quotidien pouvait être utilisé pour compter les points durant certains jeux privés, comme les jeux de dés et les paris d'argent. C'était surtout un instrument qui aidait les enfants à savoir écrire les chiffres et les lettres, ce qui est évidemment sa première fonction. Devinette, que veut dire faire table rase ? Réponse : cela provient du latin tabula rasa, c'est-à-dire la tablette de cire effacée. Et cela signifie reprendre tout à zéro.
Le hochet. Les jouets de l'époque gallo-romaine ne différaient guère de ceux d'aujourd'hui, comme ce hochet en forme de cochon ou de sanglier chevauché par un petit personnage. Seul leur usage reste parfois obscur. Le hochet, ce jouet qui produit un son quand on l'agite, est l'un des plus anciens objets identifiés comme associé à la petite enfance. Son usage témoigne d'un souci éducatif et d'une gamme de soins qui inclut les berceuses afin d'assurer une croissance en bonne santé. Il associe l'apprentissage de la propreté, de la marche, des rites religieux, de la cité, à la formation de l'âme par le rythme musical du hochet. Les Romains n'utilisaient pas seulement le hochet dans un but pédagogique ou ludique, il permet aussi d'éloigner par sa musique les mauvais sorts. Devinette, pourquoi le hochet est-il apotropaïque ? Réponse, sa musique éloigne les mauvais sorts dans le berceau des nouveau-nés.
Les jetons et les tesserae. Le jeton, ce petit objet, est un document historique absolument remarquable. Miroir fidèle des siècles passés, cet objet est aussi riche et complexe qu'une monnaie, ses origines sont tout aussi intéressantes. Dans l'Antiquité, une tessère, latin tessera, est un jeton en terre cuite. Il peut être en métal, en plomb ou en bronze, à usage varié. Elle pouvait être un bulletin de vote, un jeton d'identité pour obtenir du blé ou du pain, tesserae frumentariae, pour participer à une distribution d'argent, tesserae numariae. Les tesserae pouvaient être des bons de loterie en bois lancés à la foule durant les jeux, tesserae missiles. Ces derniers jetons avaient en commun le fait de participer à la propagande politique impériale. Il est vrai que ces divers objets furent distribués au peuple par la voie du sort et l'empereur Auguste aimait en être témoin en distribuant ainsi des présents au peuple durant les ludies publiques. Des jetons étaient aussi nécessaires pour jouer à des jeux privés comme le jeu de la marelle, le jeu des pentagrammai ou penteia, le jeu des latrunculès, le jeu d'échecs romains. Devinette. Avec quels objets peut-on jouer au jeu pair-impair ? Il est possible d'y jouer avec des fèves, noix, amandes ou même des pièces de monnaie, ou bien encore avec des billes, des jetons. Le nombre peut varier en fonction de la taille de la main des joueurs.